Donc les conditions de la communion sont en soi assez simples. C'est d'avoir la foi chrétienne, la foi catholique, et ensuite de croire donc dans cette foi catholique dans le sacrement que nous allons recevoir et qui est le notre Seigneur lui-même avec sa nature divine et sa nature humaine complète et vivante, son corps et son âme, et son corps, son sang, son âme, il est vivant, il est ressuscité. Ça, c'est la foi, ce qu'on va recevoir. Ensuite, il y a la morale, c'est-à-dire qu'il faut être en amitié profonde avec notre Seigneur. Ce qui fait que, à travers les siècles dans l'Église, il y a plus ou moins d'attention par rapport à cette préparation spirituelle pour recevoir le Christ. Il y a des moments où on est plus sévère, d'autres moments où on encourage un peu plus les âmes. Et par exemple en Orient, on est encore relativement sévère, c'est-à-dire que par coutume, on se confesse à chaque fois qu'on a l'intention de communier. Et donc on ne communie pas souvent. Des personnes pieuses vont communier toutes les semaines, mais la messe de semaine n'existe pas systématiquement en Orient. C'est la messe du dimanche. Et les personnes ne communient pas forcément tous les dimanches. L'Église nous demande de communier au moins une fois par an et de nous disposer particulièrement pour cette communion. Elle nous demande de communier au temps pascal, c'est-à-dire de nos jours de manière assez élargie. De manière stricte, c'était 15 jours avant Pâques ou 15 jours après Pâques. Dans un mois, on avait un mois pour faire sa communion pascale. De nos jours, je crois qu'on commence au début du carême, au mercredi des cendres, jusqu'à l'Ascension, on peut faire sa communion, voire même la Pentecôte, on a le temps de faire sa communion pascale. Pourquoi ? Parce que normalement, une âme doit pouvoir mettre sa vie en ordre et en cohérence avec la volonté de Dieu et l'amour de Dieu au moins une fois par an. Quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient son... Mais il y a des personnes qui sont dans des épreuves plus longues, comme ce qui se passe actuellement dans toutes les discussions à cause de l'extension et du divorce. On divorce plus facilement de nos jours. Dans les siècles passés, même si c'était intolérable, les gens ne se séparaient pas. Ou alors ils se séparaient de corps. Mais la pression sociale était telle qu'il n'y avait pas de divorce. De toute façon, le divorce civil n'était pas possible. Et il a même été à nouveau impossible après la Révolution française, entre 1814 et la Restauration, 1815, et jusqu'à 1884. Le divorce civil n'a existé que de 1791 ou 90 à 1815, donc ça fait environ 25 ans. Ensuite, cela fait 150 ans maintenant, enfin non, 130 ans qu'il existe à nouveau, voyez. Et pour un baptisé, le divorce civil n'est qu'une séparation de corps. Il sait qu'il est marié. C'est la raison pour laquelle il est invité à faire une démarche d'examen de la vérité de son lien matrimonial. Comment se fait-il qu'il se soit séparé? Est-ce qu'il y avait des conditions particulièrement graves et qui dataient de l'échange des consentements? Par exemple, une maladie psychiatrique ou un mensonge. Mais donc, on doit pouvoir communier une fois par an. La coutume actuelle est de communier bien plus souvent. On nous pousse à communier tous les dimanches, voire même à chaque messe à laquelle on assiste. Dans un autre sens, je vous avais dit que devant la présence divine, on craignait d'offenser Dieu, on craignait de ne pas être à la hauteur de son amour si on était moins dans la crainte et plus dans une spiritualité d'adoration et d'amour de Dieu. Mais même malgré cet amour de Dieu et cette confiance en Dieu, on voulait être véritablement à la hauteur de cet amour. Or, on ne l'est jamais vraiment. Donc, le jansénisme, pas forcément premier, mais dans un second temps, va être extrêmement sévère. Et l'Église catholique va condamner le jansénisme dans ses théories les plus extrêmes, qui seraient communier une fois par an, c'est déjà trop. Parce que on ne devrait même pas communier, ou peut-être communier seulement avant de mourir. Enfin, voilà, j'exagère, hein, mais c'était. Il y a eu cet aspect par rapport à la communion qui a été conflictuel dans l'Église. Ensuite, c'est Saint Pie X qui va restaurer la communion fréquente et surtout la communion des enfants. Puisque on voulait que les enfants soient très préparés pour communier, et donc c'était jusqu'à là. La première communion se passait à l'âge de 12 ans, concrètement. En France, pour garder cette communion tardive d'un enfant très bien préparé, on a la communion solennelle. Mais dans d'autres pays, elle n'existe pas, la communion solennelle. Ou le renouvellement des vœux de son baptême, ça n'existe pas, la profession de foi, parce que c'est un reste francophone de la communion, de la première communion qui avait été finalement retardée de plus en plus. Saint Pie X, lui, dit cela n'était pas comme cela, donc il nous faut véritablement discerner si l'enfant a la foi, croit qu'il ne reçoit pas un morceau de pain mais Jésus lui-même, et si il a une intention droite, qu'il a fait sa première confession, donc qu'il a conscience du bien et du mal, alors il peut communier. Ce qui fait qu'on a pu communier à nouveau vers 7-8 ans. Mais il y a des enfants qui sont très mûrs et qui ont conscience du bien et du mal, du mensonge, de la dissimulation, de la paresse, de la colère, et ils en ont honte. Et donc, il se trouve des enfants de 6 ans qui communient, hein, qui font leur première communion. Et donc, la communion va être non seulement dans la foi, mais aussi dans la cohérence par rapport à la charité et donc dans notre vie morale. Ce qui fait que il faut avoir l'intention droite de communier. On ne doit pas communier parce que les autres nous regardent. Il faut avoir la force d'âme de ne pas communier lors d'une messe. Si par exemple on a une extrême colère juste avant la messe et qu'on a l'âme troublée, eh bien, on peut très bien ne pas communier, c'est pas. Alors, d'autres vous diront, mais justement, lorsqu'on est en état de faiblesse spirituelle, il faut communier pour avoir l'aide de la présence de notre Seigneur. Mais en même temps, il faut aussi avoir une âme assez sereine. D'autres, s'ils sont dans la tristesse et s'ils sont dans la détresse même spirituelle, voire même dans un état dépressif au maximum, eh bien, cela peut être une très grande consolation pour eux de communier. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à communier si leur vie est, malgré les épreuves qu'ils ont, que rien ne blesse la morale ou les 10 commandements, vous voyez, qui correspondent à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Ensuite, il nous faut le ferme propos de ne pas pécher. Donc, C'est la raison pour laquelle certaines personnes, dans un état de péché habituel, de par leur profession par exemple, voyez, normalement ne doivent pas communier. Voyez. Même si vous avez des prostituées qui sont dans une très grande tristesse de leur esclavage, ou sous la pression d'un proxénète, eh bien, elles doivent sortir d'abord de cet état avant de faire une sincère confession et de communier. Parce que si elles savent qu'elles vont recommencer certainement le soir même ou le lendemain, ce n'est pas le ferme propos. Ensuite, vous avez des personnes qui sont ce qu'on appelle habitudinaires d'une faute chronique, comme par exemple l'alcool. On pense souvent à la pornographie, mais il n'y a pas que la pornographie. Vous avez aussi des personnes qui peuvent être très violentes et qui frôlent le péché grave chaque semaine, je ne sais pas, par des colères extrêmement fortes. Alors que la colère, nous le verrons, est en soi une faiblesse humaine qui n'est pas toujours grave, même si elle est spectaculaire pour certaines personnes, mais sans conséquences et sans effet profond. Mais par contre, si vous avez une colère où vous bousculez, vous frappez, et toutes les semaines, voyez-vous, à ce moment-là, voyez, si vous avez le ferme propos, par exemple pour les alcooliques, eh bien on peut leur donner l'absolution. Et ils peuvent communier malgré cet état, ou une personne qui a une addiction grave à la drogue, ou qui est torturée par sa sensualité, eh bien, même si c'est fatigant et usant, l'Église a toujours demandé la confession avant la communion. Et les prêtres sont extrêmement délicats à donner l'absolution. Alors au bout d'un certain temps, on s'ennuie, on se dit mais c'est fatigant de retomber et de toujours avouer cette faiblesse, puisque j'ai toujours l'absolution. Alors est-ce que ma communion est-elle vraiment sincère? Comment ça se fait que Dieu ne me convertit pas profondément pour arrêter ses fautes? Eh bien, c'est le combat spirituel. Vous voyez, Et dans les siècles passés, on se confessait moins et on communiait moins. Comme de nos jours, on veut absolument communier tous les dimanches, eh bien, c'est vrai que c'est plus pesant pour un alcoolique, par exemple, de devoir se confesser pour communier chaque dimanche, pour pas avoir le regard tiens, pourquoi il vient pas communier. Dans des pays encore marqué par l'exigence des conditions de la communion, paradoxalement en Amérique du Sud, eh bien vous n'avez, dans certaines assemblées, vous avez un tiers des gens qui viennent communier. À Paris, vous avez la communauté hispanophone colombienne à Saint-Pierre-de-Chaillot. Vous avez sur 120 personnes présentes ou 200 personnes présentes, vous avez 50 communions. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes ont tué père et mère, la veille, mais ils ont contracté l'habitude de se confesser avant de communier. Mais, voyez-vous, de nos jours, on veut tout savoir, on veut tout maîtriser, alors que c'est une question aussi de cœur à cœur avec Dieu et de sincérité avec Dieu, de cohérence avec le Christ. Et il nous est rappelé aussi que la communion spirituelle, lorsqu'on ne se considère pas, en état de communier, si vous voulez, lorsqu'on est un peu tiède ou fâché avec quelqu'un, on le prend moins dans ses bras, ou on l'embrasse moins. Voyez. La communion a quand même d'une intimité, d'une très grande confiance, une très grande amitié, un très grand amour avec Dieu, normalement. Ensuite, on peut communier, si on n'a pas du roudoudou et si on n'a pas des sentiments fantastiques chaque dimanche, on communie aussi parce que notre foi profonde nous dit qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est Dieu et qu'il nous aide. Même une communion un peu routinière est une bonne communion aussi. Voilà, c'est le ferme propos de ne pas pécher. Et je vous avais dit aussi que la confession est demandée seulement une fois par an, au minimum. Donc, là, sans temps particulier. Ce qui fait que par coutume, en général, les personnes qui communiquent une fois par an, elles se confessaient juste avant. Et donc, dans les villages, lorsqu'il y avait encore de la pratique religieuse, si vous aviez un homme, c'était surtout les hommes qui étaient un peu plus lourds, un peu par rapport aux femmes qui sont plus pieuses, voilà. Et donc, c'était des personnes, ils finissaient quand même toujours par avoir un peu la crainte de Dieu et de se dire qu'il fallait quand même être bien avec Dieu. Heureusement qu'on a le Christ qui s'est fait homme, parce que imaginez, vous voyez, la religion naturelle en soi, c'est une relation assez, comment dire, claire et nette avec Dieu. C'est le Tout-Puissant, c'est le maître de la vie et de la mort, et puis voilà. Donc, je dois me mettre en ordre avec lui de temps en temps. Tandis que Dieu, c'est plus que cela, quand même. C'est notre sauveur et c'est notre grand frère et notre ami dans notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme. Alors, je vous disais la dernière fois que par rapport à ces intentions profondes de la communion, un orthodoxe qui normalement est fâché avec la hiérarchie catholique et l'enseignement du magistère romain ne doit normalement communier que s'il est en paix avec la providence divine dans la présence épiscopale et l'autorité pontificale du successeur de Pierre. C'est ce qu'on appelle un schisme lorsqu'on est fâché avec la hiérarchie supérieure. Et donc, dans la providence aussi de la paix avec nos pasteurs, avec nos chefs. Donc, il ne devrait pas communier. Mais, par souci d'écuménisme, en 1983, on va permettre à un orthodoxe qui n'aurait pas d'église orthodoxe proche et qui serait dans le très grand désir de recevoir notre Seigneur, s'il a une vie morale saine et qu'il a une intention droite, on lui permet de communier à une messe catholique. Ce qui est quand même encore quelque chose qui est de l'ordre de l'exception.
Et inversement.
Inversement, les orthodoxes, en général, considèrent que les catholiques ont été très incorrects avec eux, avec le sac de Constantinople et toutes les disputes. Et donc, en général, quand un catholique se présente, et ça se voit, il n'a pas forcément l'habitude, mais les catholiques orientaux qui ont les mêmes rites que les orthodoxes et qui savent comment faire, se trahiront peut-être par telle ou telle petite coutume. En règle générale, les orthodoxes n'admettent pas les catholiques à la communion.
Je demande juste le prénom.
Oui, avant de communier. Et donc, pour les protestants, là, c'est encore plus difficile. Et donc, je m'étais peut-être mal exprimé la dernière fois. Pour les théologiens les plus pointilleux, ce n'est qu'en péril de mort qu'un protestant pourrait recevoir la communion. Mais pour des personnes qui sont très engagées dans l'écuménisme, ils se disent « Oh ben non, si on a un très grand désir de communier, alors les conditions de la communion dans le code de 1983 sont très précises. C'est qu'il faut qu'il ait la foi catholique sur les sacrements. C'est étrange un peu, vous voyez, c'est un protestant qui resterait encore protestant de nom, mais qui croira en la présence réelle et en la consécration au moment de la messe. Non, mais ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est justement le ferme propos de ne pas être dans le péché. Mais pour la confession, pour un protestant, c'est un peu difficile, ils l'ont pas. Bon. Et ensuite, l'intention droite, enfin voilà. Donc, normalement, ça n'arrive. Les commentateurs les plus classiques, ils nous disent, ça ne devrait être qu'en péril de mort. Vous voyez, vous avez un protestant qui est très malade et qui fait une conversion et qui n'a pas le temps de faire toutes les démarches de la pleine communion. Un prêtre catholique peut lui donner la communion si le protestant lui dit, ben, je crois que Jésus est présent dans la Sainte Hostie, je regrette mes péchés. De toute façon, en péril de mort, on peut tout faire. Hein. Tout s'incline. Toutes les règles de prudence et toutes les coutumes s'inclinent devant la mort. Vous voyez ? Ce qui est bon et juste. Voilà. Donc, c'est bien précis. Les protestants ne peuvent communier qu'à des conditions extrêmement restreintes. Vous voyez ? Et de nos jours, il est bien évident que dans une démarche écuménique, on ne respecte pas ces fondamentaux et c'est un peu relativiste. Donc maintenant, l'état de l'âme justement, l'état de grâce. L'état de grâce, ce n'est pas de sentir que Dieu nous aime ou de sentir qu'on aime Dieu. C'est un état où notre conscience, notre intelligence nous dit que nous sommes dans la cohérence vis-à-vis de la volonté de Dieu. On peut être tristounet, on peut être froid, on peut être très tiède, on peut être sec, on peut être, dans un état de ferveur, très très exalté, ça revient au même. L'état de grâce est un état de volonté de suivre d'une manière simple et claire la volonté de Dieu, et cela dépasse la crainte servile de Dieu. La crainte servile, c'est le païen qui a peur. Les Aztèques, les Incas, autres Toltecs, on a fait récemment une découverte. Par rapport au sacrifice humain, c'était donc une règle religieuse qui allait jusqu'à faire des campagnes militaires pour avoir des sacrifices à offrir. Et la société était fondée sur ces fêtes où le peuple attendait ces sacrifices humains pour être bien sûr que Dieu leur soit propice. Eh bien, on a découvert récemment, en fait, que ça allait pas seulement aux prisonniers de guerre. Hein. On savait déjà pour pour le Mexique, ce sont les Aztèques.
Les Aztèques, pas les autres.
Ils offraient des enfants qui étaient bien préparés sur les pans de montagne. On a retrouvé des momies très bien conservées à cause de la grande altitude. Et c'était assez impressionnant. Une jeune fille de 12-14 ans, un garçon de 10 ans et une fille de 10 ans. Et qui était préparé pour le sacrifice. Alors on ne sait, on n'ose pas toucher au corps, qui sont très bien conservés, on n'a pas fait d'autopsie, on ne sait pas s'ils ont été étouffés, il n'y a pas de marque de coups de poignard ou autre, mais ils étaient imprégnés de feuilles de coca, qu'ils mâchaient. Ensuite, vous avez aussi des tours de crâne, qu'on a découvert avec des femmes et des enfants. Mais ça, c'est plus récent, et on ne pensait pas qu'il y avait des sacrifices comme cela, aussi forts, de femmes et d'enfants. C'était moins fréquent que les prisonniers, mais... Donc ça, c'est la crainte servile de la divinité. Nous sommes dans la crainte filiale. Et Dieu veut notre bonheur, et donc veut que nous puissions comprendre ce qui est bien, et en vivre. C'est la raison pour laquelle ce soir j'aimerais vous exposer les passions qui sont un moyen de savoir où nous en sommes dans le bien et le mal, et ensuite les péchés capitaux. Donc vous avez cette feuille, c'est marqué passion en haut. Tout le monde a cette feuille. façon. Et vous avez ensuite une autre feuille qui est définition de la passion. Alors, définition de la passion, c'est la définition stricte et philosophique. Et moi, j'en fais une interprétation large. C'est un mouvement de l'appétit sensible en réponse à un bien ou à un mal sensible qui a été perçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mouvement de notre âme. Mais ici, l'appétit sensible, c'est un mouvement de notre âme qui anime un corps par rapport à un objet sensible. Un objet visible ou un objet odorant, une odeur, une sensation, un toucher ou quelque chose qui correspond à notre goût, qui correspond aux cinq sens. À la vue, à l'odorat, à l'ouïe. Donc ça peut être de la musique, cet objet, au goût et au toucher, à notre sensibilité, jusqu'à la sensibilité sexuelle, naturelle de l'homme et de la femme. Cet objet, comme de la musique, eh bien, nous saisissons cet objet. Et si c'est un bruit strident et qui nous fait mal aux dents, c'est un mal pour nous. Si c'est une musique dont la mélodie nous plaît, c'est un bien. Ça, je parle par rapport à l'ouïe. Ce qui a été perçu. Un objet, c'est ce qui est jeté devant vous. Un javelot, un jet, objectum. En latin, c'est ce qui est jeté. Ob, c'est ce qui est devant. Vous voyez. Oui. Non, ça peut être un livre. Objet. C'est un objet. C'est ce qui est mis devant nos cinq sens. Au sens large, de la musique est un objet. Ce qui vient frapper nos oreilles. Oui. Oui. Comment ? Il y a des personnes qui sont assez abstraites pour apprécier uniquement le rythme et le timbre délicieux de la voix du chanteur et qui n'adhèrent pas du tout à la philosophie sataniste ou luciférienne du chanteur ou un peu chaotique et destructrice de cette musique. Alors vraiment, ça c'est les mystères de la conscience. Et je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui aime le rock metal ou le death metal, hein, le métal de la mort, parce que certains qui l'écoutaient ont été retrouvés morts. Et ils l'avaient en écouteur et le lendemain matin, on les a retrouvés morts. Et c'est du rock metal, mais alors extrêmement rocailleux. On a vraiment l'impression d'un crapaud qui meurt. Dans des souffrances atroces. Et donc, oui, je ne sais pas pourquoi on aime à... Comment dire, ou à... C'est particulier. Ou alors à déchirer un bidon de métal et mettre un micro à côté. Vous voyez, les goûts et les couleurs, on n'en parle pas, mais en l'occurrence, il y aura quand même des choses objectives par rapport au mal. Je continue un peu de philosophie avant de passer à l'interprétation spirituelle. L'appétit concupiscible, l'appétit, comme son nom l'indique, c'est un mouvement vers l'objet. Vous voyez ? Au sens commun du terme et usuel, l'appétit, c'est le fait d'avoir faim. En fait, c'est le fait de chercher de la nourriture. Et c'est la réponse au bien ou au mal sensible simplement appréhendé en tant que tel. L'objet, c'est le bien ou le mal sensible, normalement, hein, c'est-à-dire qui répond aux cinq sens. Qu'est-ce que l'appétit irascible? La concupiscence, c'est le mouvement vers l'objet. Irascible, c'est une réponse au bien ou au mal sensible en tant que difficile ou ardu, à atteindre ou à éviter. C'est une énergie, l'ira, I-R-A, la colère. C'est une énergie, c'est un développement de notre appétit qui s'énerve pour obtenir un objet ou pour le repousser. Voyez, l'obtenir parce que c'est un bien et on veut ce bien, voyez, on veut arriver à temps à l'aéroport pour prendre son avion. Donc on aimerait détruire la voiture qui est devant nous, qui est un obstacle, ou une personne qui ne démarre pas tout de suite au feu vert. Bon, mais on désire arriver à l'heure, c'est un bien. Et tout mal intermédiaire qui est un obstacle à ce bien, on veut l'anéantir. En règle générale, voyez-vous, le conducteur veut rouler à sa vitesse, aller à sa destination comme il le veut, et tout ce qui l'énerve, c'est tout ce qui peut être un obstacle à sa circulation fluide. Mais il peut être hypocrite et de mauvaise foi. Eh bien, vous voyez, déjà j'étends un peu. Mais le désagrément est sensible, le fait que la voiture n'avance pas. Et la colère, c'est par exemple, vous perdez vos clés. Quel est le bien ? Là, ce n'est plus vraiment un bien sensible. Ou le bien sensible, c'est les clés elles-mêmes. Vous voyez, le trousseau de clés. C'est un grand bien. Quand vous voulez ouvrir une porte, vous voyez, ça c'est un trousseau de curé. Vous voyez, donc il y a toutes les clés possibles et imaginables pour ouvrir une paroisse. Et donc quand je le perds, je désire le retrouver. Ça, c'est du métal. Vous me direz, pourquoi m'inquiéter de ne pas retrouver du métal? Mais ce métal permet d'ouvrir les portes. Et donc, je me mets en colère. Et comme la colère est un mouvement naturel, ce n'est pas un péché en soi. Et comme c'est un mouvement de l'âme, une passion de l'âme, qui est fréquente, enfin qui est naturelle et fréquente, ce n'est pas c'est un péché qui est dans sa nature vénielle, pardonnable. C'est pas un péché grave, la colère en soi. Sauf lorsque vous étranglez le conducteur qui ne démarre pas, vous sortez de votre voiture, lui il se vexe, prend sa clé et la jette dans le caniveau en disant « mais comme ça je ne démarrerai pas plus ». Et vous êtes hors de vous et vous l'étranglez. Voilà. Et vous gâchez votre vie pour un feu. Ça c'est une colère, ça va jusqu'au péché grave. Mais en soi, de klaxonner et de lui donner un nom d'oiseau, eh bien c'est un péché véniel. Oui. De se mettre en colère, enfin d'exciter sa passion pour mieux et plus vite retrouver ses clés, c'est naturel, c'est pas un péché en soi. Mais ça peut dériver. Ce qui fait que, pour ma part, étant d'un tempérament faussement calme, mais véritablement bilieux, voire nerveux, eh bien, j'ai décidé de ne plus jamais poser mes clés quelque part. Et donc, cela fait 17 ans que mes clés sont attachées et que je les perds pas, à moins de voilà. Ça c'est l'appétit irascible, c'est difficile ou ardu, voyez. L'objet c'est le bien sensible difficile à atteindre ou le mal sensible difficile à éviter. Ce sont des termes très simples, mais vous allez voir que ça va vous servir dans votre vie.